entrevues. Radio Shalom Bourgogne, 97.1 FM.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, nous sommes aujourd'hui avec deux représentants d'Éducation nationale, Madame Cécile Dejoie, qui s'occupe particulièrement du CLEMI, qui est un organisme chargé de s'occuper d'éducation média à l'information, et avec Monsieur Pascal Bourgoin, de la DRAN, qui s'occupe plus particulièrement de l'éducation au numérique. Ces sujets sont des sujets importants, centraux dans la vie de nos enfants et nos adolescents. Et vous êtes particulièrement mobilisés autour de la question de la parentalité numérique. Donc je voudrais que vous nous commenciez par définir ce mot et voir un petit peu ce qu'il y a derrière pour que nous puissions avancer et que nos auditeurs comprennent de quoi il s'agit.
Alors définir la parentalité numérique, c'est un petit peu complexe parce qu'on n'a pas non plus une définition claire de ce qu'est la parentalité, qui est une notion assez récente en fait dans la sociologie les sciences sociales en général. Moi je dirais qu'au sein de l'éducation nationale, ce qui nous intéresse, et particulièrement au CLEMI, c'est d'essayer d'accompagner en fait les parents dans la société du numérique. Face aux questions de parentalité qu'ils peuvent rencontrer, d'opposition, de contrôle des écrans, etc. Voilà. Donc, définir la parentalité numérique, c'est être parent à l'ère du numérique, en fait, plutôt.
Très bien. Concrètement, comment ça peut se passer dans un collège ?
Alors, aujourd'hui, en fait, dans les collèges, donc les enfants eux-mêmes, les élèves, ont des formations et de l'éducation au numérique. Ils font aussi de l'éducation aux médias et à l'information, qui n'est pas une discipline à part entière, hein, bien sûr, mais qui est traitée dans différentes disciplines, même dans toutes les disciplines. Et pour ce qui est de l'accompagnement à la parentalité numérique, les établissements scolaires essayent aussi de communiquer aux parents sur ces sujets-là, via par exemple l'environnement numérique de travail, et puis d'organiser aussi des temps de rencontre avec les parents, souvent avec l'aide des associations de parents d'élèves.
Alors du côté des enfants, quelles sont leurs préoccupations des jeunes et des moins jeunes ?
Alors, on présente souvent les enfants comme assez peu vigilants par rapport aux risques qu'ils peuvent courir en étant sur des réseaux sociaux ou sur Internet plus largement. Ce qui est faux, comme l'ont montré en fait beaucoup d'études, les enfants sont au courant en fait des risques. Ils sont assez vigilants et assez vigilants aussi par rapport à la désinformation et contrairement à une idée reçue. C'est pas forcément les jeunes qui partagent le plus de désinformation. Et le plus grand enjeu éducatif aujourd'hui, c'est plutôt de les accompagner à aller vers l'information. Parce qu'il y a aujourd'hui un rejet de l'information par les enfants, en tout cas de l'information auquel on pense pour les adultes. Actualité politique, actualité sur les guerres, actualité sur le réchauffement climatique. Tout ça, ça ne donne pas forcément envie de s'intéresser à l'actualité. Donc le rôle de l'éducation aux médias et à l'information, c'est plutôt aussi de retrouver le goût, la joie, le plaisir de s'informer, d'aller vers l'information et pas qu'elle soit en fait amenée par les algorithmes et donc non choisie. Donc ça, c'est un enjeu très fort de l'éducation aux médias et à l'information aujourd'hui.
Alors, un exemple peut-être, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme action concrète en matière d'éducation aux médias et à l'information ?
Alors, des actions concrètes portées par le CLEMI en particulier, c'est d'intéresser les enfants à l'information en les faisant devenir producteurs de l'information, d'investir dans la production d'un journal de l'établissement scolaire. Alors, on peut avoir l'idée d'un journal un peu poussiéreux, mais aujourd'hui, les médias scolaires se sont beaucoup renouvelés. Ça peut être des radios scolaires, il y en a de plus en plus, notamment dans le département de la Côte d'Or, où beaucoup de collèges sont équipés de matériel pour faire de la radio. Et puis, ça peut être aussi de la TV, de la web TV. Donc, on a plusieurs établissements aussi qui font leur JT à hauteur d'enfants, qui produisent de l'information et qui, pour cela, en fait, vont aussi être initiés à l'écriture journalistique, la vérification de l'information, la recherche d'une information fiable. Et donc, c'est aussi tous ces enjeux-là qui sont à l'œuvre dans l'éducation aux médias à l'information. C'est en fait de comprendre ce qu'est une information pour pouvoir ensuite lui faire confiance et la distinguer aussi de la désinformation.
Ah, c'est vrai que Radio Shalom peut témoigner du fait que dans nos travaux dans les collèges, nous rencontrons des jeunes extrêmement motivés et en fait que ça intéresse beaucoup. Passer le... on va dire l'attitude au début de dire bof, on va rien apprendre de nouveau. Et en fait, quand on rentre dans l'action, dans les échanges, c'est extrêmement riche. Ça, je vous le confirme.
Et puis, c'est le moyen en fait de travailler plein d'autres compétences que l'éducation aux médias et à l'information, puisque pour réaliser un média scolaire, par exemple, il va falloir travailler l'écriture, il va falloir travailler en fait l'information scientifique, il va falloir travailler, par exemple, réaliser des sondages et traiter mathématiquement la donnée. Bref, toutes les disciplines peuvent s'impliquer dans la réalisation de médias scolaires.
Alors sur le numérique, donc, on a entendu parler d'un dispositif qui s'appelle PIX et j'aimerais que vous en parliez savamment parce que je crois que c'est un outil qui peut être efficace et qui est pratique.
Alors savamment, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un outil qui est ouvert à tous. Voilà, ça c'est déjà, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, tout le monde peut trouver un parcours pour s'informer déjà, la première chose, et puis aussi pour... y trouver un sens et peut-être apprendre des choses nouvelles, puisqu'il n'y a pas que l'information, il y a aussi comment rédiger des données, stocker des données, se protéger, gérer des réseaux sociaux. Et du coup, pour rebondir, c'est rentré dans le cursus des jeunes, et PIX, dès le plus jeune âge, maintenant, on commence un peu en primaire, mais c'est surtout à partir de la sixième et jusqu'à la terminale. Maintenant, petit à petit, on intègre PIX dans les programmes et l'objectif final, c'est de pouvoir le certifier à chaque moment. Il y a déjà des certifications, mais jusqu'au bac, pouvoir arriver à certifier finalement des compétences. Sachant que le niveau peut s'élever au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'avancée du jeune. En fait, il y a une adaptation des questions en fonction de ce qu'il a répondu, de ce qu'il a traité, ce qui fait que ça va complexifier au fur et à mesure et lui donner un niveau. Et il va pouvoir ce niveau peut être aussi utilisé après dans la vie professionnelle, puisque PIX peut rentrer aussi dans un cadre professionnel et donner ce niveau nous permet après de peut-être dans notre CV de se donner une compétence complémentaire sur le numérique.
Oui, donc là on est vraiment sur la question des compétences du jeune qui est en formation.
Oui.
Mais du côté du parent.
Alors du côté des parents, l'intérêt c'est qu'on retrouve énormément de thématiques, et ces thématiques, l'avantage c'est qu'elles sont simples, elles peuvent être sous forme de quiz d'un niveau du niveau que l'on souhaite et du niveau d'accompagnement qu'on le souhaiterait avec le jeune. Et ce qui est très intéressant dans PIX, soit c'est une acculturation personnelle des parents pour pouvoir répondre ou suivre ce que fait l'enfant, mais c'est aussi un travail en commun qui permettrait justement de faire une parentalité numérique vraiment forte entre l'enfant et les parents. C'est-à-dire de trouver des moments, comme on l'a déjà expliqué, c'est des moments très courts, hein, de 5-10 minutes, qui permettent à un moment donné, après un repas, ou dans l'après-midi, ou un matin, ou dans un voyage en voiture, trouver un temps pour parler d'un des sujets du numérique familial, au niveau de... Voilà, ça peut être autour des réseaux sociaux, on en a déjà parlé, puisque c'est quand même le point que les parents ont le plus de soucis, c'est-à-dire savoir est-ce que mon fils ou ma fille peut aller comme ça très facilement sur les réseaux sociaux. Et bien justement, on va y trouver des réponses qui permettront de sécuriser et peut-être d'accompagner, plus que d'interdire, mais essayer d'accompagner au mieux le jeune dans les réseaux sociaux qui semblent tellement maintenant prégnant dans notre société qu'on ne peut pas s'en passer, donc il faut l'accompagner, le comprendre et l'accompagner.
Alors comment faire pour le... Il y a des parents qui ne s'occupent pas du tout de cette question-là, qui laissent les enfants libres d'accès à partir des smartphones très tôt d'ailleurs. Il y a des parents qui sont dans un contrôle extrême. Quel chemin vous imaginez de possible ?
Bah c'est quand on dit toujours il faut pianoter, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire dans l'interdiction totale, je ne pense pas, mais plutôt dans un contrôle éclairé. Maintenant, beaucoup de contrôles parentaux sont plutôt éclairés, qui permettent aussi d'avancer. Mais je pense que l'éducation et la discussion ensemble permet aussi de construire un travail autour du numérique et autour des réseaux sociaux, puisque c'est quand même le sujet. Comme comme l'IA sera un sujet ou est un sujet, à un moment donné, il faut déjà s'acculturer et travailler ensemble autour du sujet pour pouvoir et se donner quelques règles de base dans la cellule familiale, mais aussi à l'école, ce que nous, on fait avec les enseignants et que les enseignants font très bien, c'est-à-dire essayer déjà de donner ce cadre qui permet aussi de pouvoir travailler sur ces réseaux, de pouvoir travailler sur le numérique avec une certaine sécurité, savoir surtout le gérer. Voilà, ça c'est important, de savoir comprendre les mécanismes et savoir se protéger de toutes ces données et de tout ce qui peut, tout ce qui pourrait justement être néfaste à l'utilisation des réseaux sociaux.
Alors, il y a le fameux contrôle parental, peut-être en dire un mot techniquement, parce que le parent et l'enfant ne sont pas au même niveau. L'autorité parentale, d'ailleurs, qui est une obligation inscrite dans la loi, nécessite parfois d'interdire ou de poser des limites très fortes. Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de le faire de manière transparente ?
Alors, il y a énormément d'outils de contrôle parentaux qui existent, des outils natifs en fait, sur les appareils même, en fait, hein, qui sont liés aux appareils qu'on utilise. Et c'est vrai que ça peut être difficile aussi pour les parents d'apprendre à maîtriser ces outils de contrôle parentaux. Et alors, nous sommes aussi parents, quelque part, on s'est posé la question. Et dans les parcours PIX réservés aux parents, il y a justement un petit parcours qui amène à s'interroger sur le paramétrage du contrôle parental. Je me suis aperçue qu'il y avait des choses que je ne savais pas ou que je n'avais pas correctement paramétrées, par exemple sur un smartphone. Donc voilà, c'est un moyen, quand Pascal dit que les parcours PIX, c'est un moyen de s'acculturer, c'est ça en fait, c'est se rendre compte que ces outils existent, mais que c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir des difficultés à prendre en main. Et il y a aussi une autre ressource qui me paraît essentielle à signaler aux parents, c'est le site Internet sans crainte. Sur ce site Internet sans crainte, vous avez aussi plein de petits tutoriels pour apprendre à paramétrer les réseaux sociaux pour mieux se protéger et mieux protéger son ado qui commence à aller sur les réseaux sociaux. Par exemple, pour pas que son profil soit public, pour protéger ses données, pour ne pas confier aussi ses données à l'opérateur qui va entraîner une intelligence artificielle dessus. Donc, il y a plein de petits conseils là, sur le site d'Internet sans crainte, vraiment très, très courts et adaptés à l'application qu'on utilise. Voilà, si on veut paramétrer Snapchat, il y a une petite explication sur Snapchat. Et l'avantage, c'est que Internet sans crainte va en fait mettre à jour complètement parce que ces applications évoluent sans cesse en fait. Donc avec le risque de se sentir complètement dépassé parce que leur objectif quand même, ce n'est pas de nous faciliter la vie par rapport à ce contrôle.
Oui, donc il existe des outils tout à fait abordables, gratuits et efficaces.
Oui,
aujourd'hui.
Et puis je pense qu'il y a ce qui est important pour les jeunes, c'est de leur apprendre à... déjà leur laisser la confiance, prendre confiance qu'ils peuvent le faire et surtout être conscient qu'après, c'est une fois que ce mécanisme de recherche, de protection, on le connaît, On l'adapte. Après, comme tu disais, il faut l'adapter à ce moment-là à chaque nouvelle application, puisque de toute façon, ça avance toujours très vite. Mais le principe de savoir se protéger ses données et se protéger par rapport à l'application ou par rapport à ce qui pourrait y arriver devient vraiment un mécanisme. Mais c'est un travail de longue haleine, si on peut dire, mais qui se fait justement de très jeune. En fait, c'est comme tout apprentissage. En fait, c'est quelque part un apprentissage aussi qu'on doit mener pour avoir cette prise de conscience qu'à un moment donné, tout peut se retrouver sur Internet. Et puis après, c'est marqué à vie, puisque c'est difficile de l'enlever. Mm-hmm. Les empreintes numériques restent. Et donc ça, c'est un des travaux de l'école, mais c'est aussi un travail de la famille. Et aussi des associations, enfin je veux dire les centres sociaux, tout le monde met en place dans les communes maintenant, on a toujours un moment donné des petits modules, des petites des temps où consacrés, alors pour les parents comme pour les jeunes, pour essayer justement de savoir gérer ces réseaux sociaux.
Alors il y a un point de détail qu'on n'est peut-être pas, que vous avez évoqué tout à l'heure, la majorité numérique à 15 ans. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la majorité réelle?
Alors, c'est la loi française hein, qui a statué sur cette majorité numérique à 15 ans. À l'heure actuelle, il y a un débat au sein de l'Union européenne pour essayer d'harmoniser cette notion de majorité numérique. Et le débat serait plutôt autour de 16 ans, ce qui serait cohérent avec certains autres droits que les jeunes obtiennent à partir de 16 ans. La majorité numérique à partir de 15 ans, concrètement, ça signifie qu'à partir de 15 ans, c'est le jeune qui est responsable de ses données et donc il n'a plus besoin de l'accord de ses parents pour s'inscrire sur des applications de réseaux sociaux numériques. Et ça veut dire aussi qu'il est pleinement responsable de ce qu'il publie. Donc à partir de 15 ans. Alors que la législation, en fait, implique davantage les parents avant 15 ans. Donc, voilà, en gros, l'explication de la majorité numérique à 15 ans et qui devait normalement s'accompagner de la vérification par les plateformes de l'âge des jeunes qui s'inscrivent sur leur réseau. Et à l'heure actuelle, c'est toujours pas le cas, en fait. Donc, c'est purement déclaratif, en fait.
Ce qui veut dire qu'un quelqu'un qui a 15 ans, qui commet des choses, qui a des comportements inappropriés au niveau des contenus, qui, par exemple, fait l'objet d'une plainte, enfin, se retrouve dans une affaire, il est pleinement responsable. Ses parents ne sont plus responsables, alors qu'il n'a pas 18 ans.
Je crois que c'est le cas. Alors, je ne suis pas spécialiste juriste, hein, donc il faudrait vérifier. Mais en fait, c'est la pleine responsabilité, effectivement. Par rapport aux risques que prennent les jeunes et les moins jeunes sur Internet, mais on a évoqué, enfin, on pourrait évoquer le cyberharcèlement, qui est souvent une crainte quand même. Des légitimes, hein, des familles.
Qui est massif.
Et au-delà du cyberharcèlement, toute une série de cyberviolences, qui est propre aussi à cette génération qui grandit avec les réseaux sociaux et l'Internet dans sa poche. J'incite aussi les familles et les jeunes à installer sur leur téléphone l'application 3018, le numéro 3018. Le numéro de téléphone, c'est celui pour signaler en fait un cyberharcèlement ou le harcèlement en général. Mais l'application 3018 permet en fait d'avoir un petit questionnaire pour évaluer justement si on rencontre une situation de cyberharcèlement. Et puis d'autre part, elle contient un coffre-fort numérique qui va permettre d'engranger des preuves, hein, capture d'écran, vidéos reçues, etc. La personne ou le jeune qui est victime peut de lui-même faire constituer un dossier de preuves, parce qu'on sait que dans ces affaires de cyberviolence et de cyberharcèlement, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir apporter des éléments, en fait. mais pour pouvoir ensuite porter plainte et exiger aussi le retrait des contenus de certaines plateformes.
C'est un sujet quand même complexe pour lequel on fait venir régulièrement des associations, mais visiblement, cette question-là ça se calme pas, c'est de plus en plus prégnant. Pix, donc, est un outil révolutionnaire.
Révolutionnaire, je ne sais pas, mais l'avantage, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. Et c'est c'est ça la force. Il est gratuit.
Important.
Il est important et les thèmes sont enrichis régulièrement. Et quand je dis ça va des parents jusqu'aux universitaires, tout le monde peut s'évaluer sur Pix. Moi, je suis un enseignant de réseau info à la base. Quand on passe le niveau haut de Pix, on ne l'a pas forcément. Je veux dire, c'est très adapté, mais c'est ce que je vous disais, une fois les réponses données, les questions s'adaptent. Mmh. La difficulté augmente sur chaque sujet. Donc, ça permet aussi de voir où on en est et de voir où on peut aller. Ça, c'est un cheminement qui est intéressant et qui se fait, je le redis, qui se fait sur des temps courts. C'est un petit peu comme quand on lisait son journal, c'est un peu la même idée. On prend son téléphone, on prend sa tablette et puis on essaye comme on le disait Cécile, tout d'abord s'acculturer, parce que je pense que ça passe, c'est une acculturation qui est fondée et objective, qui permet déjà de se donner des idées, et puis après voir le parcours qu'on veut en faire par rapport aussi soit personnellement son évolution dans le numérique, mais aussi avec ses enfants, voire pour les suivre. Et c'est un peu le côté ludique aussi. C'est une plateforme qui pourrait encore être plus mise en avant et qui a un sens, je pense, dans le paysage du numérique. Essentiel, on va dire.
Clairement, la mise en œuvre de vos missions est favorisée. On sent qu'elle est portée par l'institution à laquelle vous appartenez, l'Éducation nationale. Quel serait pour vous ce qu'il faudrait faire encore évoluer par rapport évidemment aux limites qu'on rencontre toujours, les parents qui restent en retrait, la charge de travail des enseignants, les enfants et leurs particularités aujourd'hui, selon où ils habitent, selon les collèges. Comment vous voyez l'évolution de votre travail qui devient quand même essentiel, soyons clairs?
Alors, l'éducation aux médias et à l'information et l'éducation au numérique sont certes des priorités au sein de l'Éducation nationale, mais les priorités sont nombreuses et l'école ne peut pas non plus traiter toutes les questions de société. Donc, je pense que l'éducation aux médias et à l'information et l'éducation au numérique est vraiment à penser aussi tout au long de la vie. Parce que justement les technologies évoluent en direction de tous les publics et plus que ce qu'on fait déjà ou ce qui est déjà fait, on peut toujours faire plus, c'est effectivement de l'éducation nationale, mais je pense que vraiment il faut dialoguer et accompagner aujourd'hui tous les publics avec une relation avec les parents bien sûr, mais aussi avec d'autres acteurs du champ de l'éducation au numérique et de l'éducation aux médias et à l'information.
Je rappelle, je suis avec Monsieur Pascal Bourgoin, donc, qui s'occupe du numérique à l'Éducation nationale, et avec Madame Dejoie qui s'occupe de la question des médias de l'information, enfin de l'éducation au numérique et aux médias d'information. Avant de conclure, peut-être un mot sur l'intelligence artificielle que vous avez évoquée en l'appelant IA. Qu'est-ce que vous avez à en dire et où en êtes-vous actuellement sur cette question qui vient traverser évidemment vos travaux?
Alors, le champ de l'éducation aux médias et à l'information est forcément traversé par cette question des IA génératives en particulier. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, les jeunes comme les moins jeunes, pour leur recherche d'informations, passe directement par des outils d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT, par exemple, mais il y en a bien d'autres, et non plus par des moteurs de recherche traditionnels, ce qui pose là de nouveau des questions de formation urgentes en fait pour expliquer comment fonctionnent ces IA génératives aux jeunes. Et l'éducation nationale s'est dotée pour cela d'un cadre de l'usage de l'intelligence artificielle pour l'éducation. Peut-être que Pascal peut compléter sur ce point.
Alors, on avance, enfin nous, la DRAN, on a justement, on est sur la formation des enseignants, enfin, on a commencé l'information, et là, on va commencer la formation des enseignants. On mène depuis 3 ans des séminaires sur l'intelligence artificielle, pour déjà, c'est toujours la même idée d'acculturation, de comprendre, et puis après, comment, dans quel cadre utiliser l'IA dans son enseignement, dans la vie du jeune, mais dans nos enseignements et dans l'enseignement des enseignants, comment l'IA va intervenir. Et c'est, pour l'instant, c'est beaucoup de questions. Le cadre national au niveau de l'éducation nationale est posé, il est très récent. Donc là, maintenant, on s'en empare et on essaye de donner des pistes. On a quelques enseignants en Bourgogne qui sont férus et qui ont déjà bien progressé et bien avancé, qui viennent donner des témoignages. Mais c'est surtout pouvoir, on va dire, vulgariser quelque part déjà cette intelligence artificielle et dans le cadre de l'enseignement, comment il va pouvoir être intégré et comment les jeunes vont pouvoir l'utiliser. Alors, ils l'utilisent déjà, bien sûr. Hein, mais dans un cadre éducatif, quels seront le cadre pour qu'on puisse avancer sereinement autour de ce sujet, puisque c'est quand même un sujet qui pose beaucoup de questions à tout le monde et qui amène beaucoup de craintes. Mais voilà, l'objectif, c'est d'essayer petit à petit. Ça va être brique par brique, je pense. On va arriver à avancer sur ce sujet. Et c'est beaucoup... on parlait des réseaux sociaux. À un moment donné, il fallait être vigilant. La recherche de l'information, la vérification de l'information. Là, c'est encore avec des algorithmes encore plus puissants. Donc, on arrive avec des informations qui sont à vérifier, difficiles à vérifier. Donc là, il y a un travail autour du jeune sur comment pouvoir travailler avec cette intelligence artificielle et pas la prendre pour argent comptant, être capable justement de pouvoir s'en emparer et surtout vérifier le sens et la source et les sources qui sont proposées, d'où aussi des intelligences artificielles plus européennes ou plus françaises sur des serveurs qui nous permettent nous d'avoir une assurance pour nos jeunes de travailler dans le cadre de l'éducation nationale de façon sereine.
Oui, parce qu'il y a la question de penser par soi-même qui est d'ailleurs même nous les adultes hein, qui n'est pas simple parce que on a tous envie d'aller très vite et d'utiliser l'IA par exemple fait des choses formidables pour résumer un livre. Très bien, je vous remercie. Donc, je rappelle que j'étais avec Madame Cécile Dejoie, donc, qui s'occupe de l'éducation média et de l'information à l'Académie Dijon, et Monsieur Pascal Bourgoin, de la DRAN, qui s'occupe de l'éducation au numérique. À très bientôt sur Shalom Bourgogne.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.